Ici Véronique Bellemare-Brière, présidente fondatrice de l'Institut Somna pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, est-ce que le fait que j'allaite mon bébé jusqu'à ce qu'il s'endorme est la cause de ses réveils nocturnes? Cette semaine, j'ai reçu un SOS de Sophie qui nous dit « Je ne sais pas si je fais la bonne chose, s'il vous plaît, éclairez-moi, parce que je me demande si c'est parce que j'allaite mon bébé qu'il se réveille souvent la nuit. » Bon, là, il y a plusieurs choses à considérer dans cette question-là. S'il y a des gens qui vous disent que c'est parce que vous allaitez votre bébé qu'il se réveille la nuit, ça n'a pas de sens en soi, parce qu'un bébé, un tout jeune bébé, surtout dans les tout premiers mois de vie, n'a pas encore le cerveau suffisamment mature pour enchaîner les cycles de sommeil. Donc, c'est un processus évolutif qui va se placer graduellement et l'horloge biologique va finir par se réguler. Mais ça, ça ne peut pas se faire au tout début. Il est trop petit pour ça. Son cerveau n'est même pas en mesure d'enchaîner les cycles de sommeil. Il y a une raison aussi pour ça, c'est que quand il est tout petit, le bébé doit être nourri régulièrement. Pourquoi? Pour assurer sa survie. Alors évidemment, s'il dormait 8 heures en continu, c'est là que les médecins, les pédiatres vous diraient « il faut le réveiller pour le faire manger un peu » parce que là, il n'a pas encore un poids suffisant pour assurer sa survie. Alors ça, ce sont deux choses qui sont tout à fait normales, tout à fait naturelles. Donc quand on dit que c'est l'allaitement qui engendre les réveils nocturnes, évidemment, ce n'est pas la bonne chose à dire parce que l'allaitement va aider le bébé à s'endormir et les réveils nocturnes, quand il est tout petit, vont survenir d'une manière ou d'une autre. C'est une mauvaise formulation. En fait, ce que la personne, ou en tout cas les endroits où vous avez lu peut-être cette information, ce que ça veut dire, c'est plutôt que un bébé qui va développer une association avec l'allaitement au moment de l'endormissement va la réclamer à nouveau en cas de réveil nocturne. Pourquoi? Parce que imaginez-vous comme adulte, vous allez vous coucher à la fin de la journée, vous vous couchez dans votre lit avec votre conjoint à côté et là vous vous endormez très très bien avec votre conjoint qui vous tient par la taille et là vous vous blottissez contre votre conjoint et c'est votre façon de vous endormir rapidement. Et là, tout d'un coup, au milieu de la nuit, vous vous retrouvez dans un train entre deux villes et votre conjoint n'est plus là, vous ne savez pas ce que vous faites là, vous ne savez pas ce qui se passe. Évidemment, vous allez vous mettre à paniquer, c'est tout à fait normal parce que vous avez perdu tous vos repères d'endormissement. C'est un peu la même chose pour le bébé. Quand il se fait allaiter, quand il se fait tenir par la main, quand il se fait caresser les cheveux jusqu'à l'endormissement, quand il est en présence de son parent et qu'il associe cette présence-là à son endormissement, donc que ce soit le contexte, le rituel, l'endroit où il est endormi, s'il est déposé dans son lit, évidemment, il va faire une association avec son endormissement. Et là, quand il se réveille la nuit, on répète que ce n'est pas parce que vous lui avez tenu la main, caressé les cheveux ou encore parce que vous l'avez allaité jusqu'à l'endormissement qu'il se réveille, mais par contre, il va chercher à retrouver son contexte d'endormissement. Et si son contexte n'est plus là, bien là, il va avoir un petit moment de panique et il va le réclamer à nouveau. Alors, au début même, évidemment, pour ce qui est des allaitements nocturnes, ça va de soi parce qu'on assure la survie du bébé. Mais quand le bébé grandit, éventuellement, on va voir qu'il y a des allaitements qui sont vraiment nutritifs et qu'il y en a d'autres qui sont plutôt réconfortants. Et quand ce sont des allaitements de réconfort, qu'on voit que la tétée n'est pas active, que vraiment le bébé On a notre spécialiste Christine qui mentionne le tétouillage plutôt que le tétage. Alors, si notre bébé tétouille, donc qui ralentit son rythme de succion et qu'on voit que finalement, ce n'est pas parce qu'il a faim, mais parce qu'il a besoin de ce réconfort-là pour réussir à s'endormir, eh bien là, on voit qu'il a vraiment développé cette association et que là, c'est devenu une sorte de béquille d'endormissement. Il a vraiment besoin à tout prix de téter pour s'endormir. Donc, c'est là, quand il a développé cette béquille-là, que l'on dit que le fait de l'avoir allaité jusqu'à l'endormissement peut nécessiter justement de retrouver ce même contexte-là pour pouvoir se rendormir au cours de la nuit. Alors, ce n'est pas que l'allaitement va engendrer un réveil nocturne, c'est plutôt que l'allaitement, si l'enfant a développé une association d'endormissement très forte avec la présence de la maman et le fait de téter et d'être allaité, va devenir aussi son association d'endormissement privilégiée et il va la réclamer à nouveau lors des réveils nocturnes. Alors, c'est une nuance qui est fondamentale, puis malheureusement, là, on entend toutes sortes de choses par rapport à ça. Il y a vraiment une confusion totale. Alors, je tiens vraiment à remettre les pendules à l'heure par rapport à tout ça. Donc, et là, qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Parce que là, il y a des gens qui vont vous dire ben, il ne faut pas allaiter son bébé juste avant qu'il s'endorme. Mais en fait, c'est entre vous et votre enfant, parce que votre enfant, il adore ça que vous l'allaitiez jusqu'à ce qu'il s'endorme. Évidemment, ça l'apaise, ça le réconforte. Donc, vous avez le choix de le faire et de vous dire oui, il va réclamer ça à nouveau durant la nuit. Et c'est tout à fait normal parce que c'est son processus d'endormissement. Il est bien là-dedans, ça le rassure, ça lui fait du bien. Et si vous, pour vous, c'est tout à fait naturel et que ça n'impacte pas trop votre sommeil à vous, et là, on parle évidemment à partir du moment où ce sont des tétés qui ne sont pas actives, qui ne sont pas des tétés nutritives, qui sont uniquement des tétés réconfortantes, bien là, si ça va à tout le monde, bien c'est parfait, c'est formidable. Mais à partir du moment où vous, par exemple, Sophie, vous me diriez, bien là, je suis exténuée, je sens qu'il n'a plus faim la nuit, mon médecin me dit que je pourrais le sevrer durant la nuit, mais malheureusement, il a besoin à tout prix de ma présence et de téter et d'être allaité pour pouvoir se rendormir, mais là, on pourrait essayer de défaire cette béquille d'endormissement. Mais il faut s'assurer, évidemment, que ce ne sont pas des tétés nutritives, parce que là, on ne le prive jamais de tétés nutritives. Donc là, qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là? C'est que l'allaitement resterait dans votre rituel d'endormissement, forcément. Mais par contre, on n'irait pas jusqu'à l'endormissement complet pour que le bébé ait conscience du moment où on le dépose, de l'endroit où on le dépose et qu'il puisse s'endormir par lui-même en étant déjà bien apaisé, bien somnolent, mais encore conscient. Donc, il remarque finalement son environnement, qu'il remarque que finalement... il va réussir à s'endormir par lui-même de manière autonome. Et c'est là qu'on l'aide graduellement à se défaire de cette association dépendante pour aller vers un endormissement de plus en plus autonome. Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Non, on n'est jamais obligé de rien faire. Et d'ailleurs, comme parent, vous avez un instinct parental et je vais toujours vous inviter à vous y fier avant tout. N'allez pas sur les forums de discussion, n'allez pas lire plein de choses contradictoires ou demander des conseils à vos cousines, à vos amis, parce que tout le monde va vous dire des choses différentes. Essayez de vous faire confiance et, en lien avec votre médecin, bien entendu, de trouver la meilleure option pour vous et pour votre bébé. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Il faut vous faire davantage confiance. Maintenant, il faut comprendre que tout humain va apprendre par conditionnement et donc que l'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse rien, il va créer une association. C'est obligé, c'est comme ça que le cerveau fonctionne, alors ça, on ne peut pas y échapper. Donc, s'il crée une association entre le fait d'être allaité et l'endormissement complet, il va la réclamer à nouveau, mais s'il crée une association entre le fait d'être déposé encore conscient et son endormissement autonome, c'est ce qu'il va prendre comme son processus d'endormissement normal. Alors, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, là. Il faut s'enlever ça de l'idée à tout prix. C'est vraiment une question de contexte, de tempérament de l'enfant, de ce que la maman est prête à faire. Si la maman est complètement épuisée puis elle n'arrive plus à dormir du tout, ou si ça lui fait plaisir puis que ça va encore bien, mais évidemment, quand on en vient à parler de sevrage, il faut à tout prix s'assurer que ce ne sont plus des tétées nutritives, que ce sont uniquement des tétées de réconfort, mais même d'association avec l'endormissement. Parce que les tétées de réconfort, il en a encore besoin, votre enfant. Évidemment, il a besoin d'être apaisé. Et ça, on va les maintenir dans tous les cas dans le rituel d'accompagnement au coucher. Mais la seule chose qui va peut-être changer selon... finalement, ce qui va être le mieux dans votre situation, c'est de décider de le faire jusqu'à l'endormissement ou d'arrêter juste un petit peu avant pour déposer l'enfant alors qu'il est encore conscient et qu'il puisse comprendre que oui, il est capable de s'endormir à ce moment-là sans téter jusqu'au moment de tomber dans le sommeil complet. Alors, il va téter juste avant pour se préparer, mais pas jusqu'à ou tout, à la toute dernière seconde qui va le plonger dans l'endormissement. Alors, j'espère que c'est clair pour vous, Sophie. C'est vraiment important comme question, puis j'ai tenu à la soulever parce que je vois toutes sortes de choses qui passent en ce moment, autant sur les réseaux sociaux, même parfois aussi, je dois le dire, sur des comptes de gens qui accompagnent d'autres personnes vers le sommeil. Et bon, je comprends qu'il faut se repositionner, mais il faut faire attention de ne pas ajouter à la désinformation. Et là, il y a des choses que l'on ne peut jamais contredire. C'est comment fonctionne physiologiquement le corps humain, dont le cerveau. Et ce fameux cerveau, eh bien, il fonctionne par conditionnement et par association. Alors ça, on n'y peut rien, ça va toujours être comme ça, qu'on fasse quelque chose, qu'on ne fasse rien. Dans les deux cas, il y a une association qui va se créer et il y a un conditionnement qui va être engendré. Alors, il faut se poser la question, est-ce que je veux créer une bonne association, une moins bonne association? Est-ce que j'ai envie que mon enfant soit réconforté là-dedans? Parce que ça, c'est primordial pour qu'il se laisse aller au sommeil. Mais est-ce que l'association de réconfort que je lui propose me convient aussi? Parce que si j'en deviens complètement prisonnière, là, c'est moi qui ne suis plus en mesure de trouver le sommeil. Alors, il faut juste trouver l'équilibre à travers tout ça, mais toujours en respectant les besoins de votre enfant avant tout, parce que si les besoins de l'enfant ne sont pas respectés, évidemment, il ne va pas être en mesure de se laisser aller au sommeil. Et là, tout le monde va avoir du mal à dormir dans la famille. Alors, c'est vraiment important de vous poser ces questions-là avant tout. Et comme je vous dis, ne laissez pas tout le monde interférer dans vos questionnements. C'est vraiment, ça se passe entre vous et votre enfant et aussi, bien sûr, avec le médecin qui va vous dire le moment où vous pouvez ou non sevrer votre enfant pour ce qui est des boires nocturnes. Parce que oui, il y a des tétées qui vont être nutritives et il y a des tétées qui vont être des associations et des béquilles d'endormissement. Et c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais quand on parle de béquilles d'endormissement, ça veut pas dire que c'est mauvais. On en a aussi nous-mêmes comme adultes quand on a besoin, par exemple, d'être collé sur notre conjoint pour réussir à bien dormir. Puis, par exemple, un soir peut-être qu'il n'est pas à la maison et là, on va avoir un peu plus de mal à s'endormir. Ou alors, ça peut être l'inverse. On peut avoir été habitué à bien dormir seul, puis lorsque quelqu'un est dans le même lit que nous, finalement, ça devient difficile. Alors, tout ça, là, c'est vraiment à prendre en considération dans votre évaluation de votre situation à vous, qui n'est pas celle de votre voisine, de votre sœur, de votre mère. Alors, revenez à l'essentiel, puis observez votre enfant, observez-vous, faites-vous confiance et tout devrait commencer à bien aller ou à aller de mieux en mieux une nuit à la fois. Alors voilà Sophie, j'espère que ça répond à votre question et de mon côté, il me fait toujours plaisir de vous retrouver. Si vous appréciez le podcast, vous pouvez toujours aller nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter dans les critères de recherche. Et de mon côté, je vais vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode d'SOS Sommeil. L'Institut Somna offre des formations et des consultations pour apprendre ou réapprendre à bien dormir naturellement à tout âge de la vie. Vu les besoins criants Nous avons récemment lancé 3 nouvelles certifications pour les personnes qui pourraient être intéressées à leur tour à devenir accompagnants au sommeil auprès des bébés, enfants, adolescents et ou des adultes. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site somna.ca.